Cette histoire est celle de la mort d'un empire, l'empire de Byzance, à la jonction, j'ai envie de dire, à la jointure de l'Europe et de l'Asie, un empire si décadent que dans ces années 1450, il n'est déjà plus que l'ombre de lui-même. Il faut vous dire qu'il a été grignoté, cet empire, depuis longtemps par toutes sortes d'agresseurs, surtout depuis un siècle environ. Il subit les attaques incessantes d'une toute jeune puissance qui est en train de se constituer à ses portes, celle des Turcs ottomans. Les Ottomans ont entrepris de démanteler Byzance, en tout cas ce qui reste de Byzance. Et ce qui était naguère encore un fruit plantureux s'est trouvé peu à peu réduit jusqu'à son noyau, la capitale de l'Empire, la ville reine, réputée imprenable, Constantinople. Constantinople, ou si vous préférez Byzance, voilà des noms qui évoquent la richesse, la grandeur, l'intelligence, le raffinement, la complexité aussi. Mais plus que tout, Constantinople, c'est un site. Ça, du reste, ça n'a pas vraiment changé. C'est un des plus beaux sites qui soit au monde. La ville est ramassée sur un promontoire en forme de triangle, un peu comme la proue d'un grand navire qui surplomberait à tribord, en l'occurrence au sud, la mer de Marmara, et à bâbord, un port naturel qu'on appelle la Corne d'Or et qui ouvre sur le détroit lui-même. Voilà pour la situation. À l'intérieur des murs. Alors là, imaginez tout un empilement de trésors incroyables accumulés au fil des siècles. Ça donne des places et des rues pavées de marbre, des architectures extraordinaires avec des tours, des coupoles, des terrasses, des jardins suspendus. Vous savez, pour un peu, ça ferait un peu penser aux cités idéales qu'on voit dans certains films, ces espèces de métropoles fabuleuses suspendues entre mer et ciel. Sans parler de ces basiliques à couper le souffle, intérieurement tapissées de mosaïques à fond d'or avec des personnages qui se détachent sur l'or et qui donnent l'impression de vous scruter jusqu'au fond de l'âme. Alors bien sûr, vu de l'Europe de l'Ouest, vu de la cour de Charles VII notamment, cette nouvelle Rome a un petit peu perdu de son lustre depuis le milieu du XIe siècle. En fait, depuis ce grand schisme qui a séparé l'Église d'Occident, qui elle obéit au pape, de l'église d'Orient, qui obéit au patriarche de Constantinople. Elle a même été pillée, cette ville, par les Vénitiens et les Croisés, peu après l'an 1200, en 1204 exactement. C'est d'ailleurs à ce moment-là que tout s'est mis à marcher de travers. La ville a essuyé coup sur coup trois épidémies de peste, elle a dû subir aussi des famines, bref, ses beaux jours étaient passés. Il n'empêche, en ces temps de grâce, 1453, c'est la seule date que je vais citer, alors il faut la retenir celle-là, en 1453, Byzance a, comme on dit, de beaux restes. Elle est toujours un phare de la chrétienté. Or, tout près d'elle, là, juste au nord, dans la ville thrace d'Andrinople, il y a un jeune homme que toutes ces merveilles empêchent de dormir. Il a 21 ans, cet insomniaque, et il a réussi, non sans mal, il faut bien le dire, à s'imposer comme le sultan des Turcs ottomans. Il est le fils d'un guerrier qui déjà a mis la ville reine à genoux, et maintenant il règne sous le nom de Mehmet II, un jour on l'appellera le conquérant. Alors Mehmet est jeune, bien sûr, mais il montre déjà toutes les qualités qui font un chef. Vous savez, il est volontaire, il est autoritaire, il est persévérant et surtout, il est très rusé. En plus, il est beau, il sait parler aux troupes, il est capable de galvaniser les foules. Bref, pour les Byzantins, on ne pouvait imaginer d'ennemis plus dangereux. Nous sommes le 7 avril 1453. À perte de vue, la gigantesque armée turque approche des murs de Constantinople. Je dis l'armée, il faut vous dire qu'il y a aussi toute l'intendance et même une partie de la population civile. En tout, une marée humaine de plus de 500 000 âmes qui s'est mise en mouvement. Alors ça fait un bruit d'enfer, bien sûr, et d'autant plus que le sultan a ordonné à ses troupes de frapper sur des tambours pour impressionner l'adversaire. Vous entendez l'air qui vibre autour de cette fourmilière en marche? Ce sont des fourmis guerrières qui sont là. Ça y est, les avant-gardes parviennent au sommet des dernières hauteurs et là, elles découvrent le spectacle. Chacun retient son souffle. Il faut imaginer l'air doux, tiède même, un air saturé de cannelle où se détachent dans le jour qui tombe maintenant les coupoles dorées de Byzance. La ville reine est là. Les Turcs l'ont à portée de la main, elle se love derrière ses hautes murailles, les murailles de Théodose, elle est comme assoupie, elle paraît bâillée, elle s'offre presque, elle est à prendre. Dans Constantinople, c'est carrément la panique. Les habitants ont été alertés depuis des heures par le bruit des tambours turcs. Alors au début, c'était qu'un murmure, évidemment, et puis c'est devenu un grondement sourd, de plus en plus effrayant, un grondement qui s'est amplifié jusqu'à ressembler au tonnerre. Et maintenant, la population entière est au rempart pour découvrir ce spectacle qui glace le sang, tout l'horizon hérissé d'un rempart humain qui se découpe sur le ciel qui rougeoie au couchant. Ça, c'est côté plaine, vers l'ouest, mais côté mer, au sud, le coup d'œil est encore plus impressionnant. Imaginez la surface de l'eau couverte de navires de guerre, près de 500 bâtiments, la plus formidable armada jamais encore réunie de mémoire d'homme. Cette fois, les Byzantins savent que leurs heures sont comptées. Le premier à être conscient du désastre, c'est l'empereur lui-même. On dit ici le Basileus. Il s'appelle Constantin XI. Il est de la dynastie des Paléologues et il se morfond en ce moment dans la pénombre dorée de son palais. Lui aussi a peur. On le surnomme Dragédès, le dragon. Mais ce n'est jamais qu'un surnom, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que ce dragon-là n'est pas vraiment effrayant. Constantin a la cinquantaine, il est veuf pour la deuxième fois, c'est un homme poussif, assez las. Alors il est sage, c'est vrai, il est droit et certains même le disent dévoué, c'est pas un mauvais souverain, loin s'en faut. Seulement, ça ne change pas grand-chose. En vérité, c'est plutôt l'entourage de l'empereur qu'il faudrait blâmer. Le pauvre Constantin se débat en effet comme il peut au milieu d'une cour compliquée, dangereuse, hypocrite, dans une sorte de méli-mélo d'intérêts particuliers qui amollit tout et qui rend tout difficile. Du coup, Constantin a tendance à se réfugier un petit peu trop dans la religion, ce qui paraît naturel après tout pour un souverain considéré comme le premier serviteur du Christ. Faut voir ce qu'est le protocole impérial à Byzance. Tout ça fait de l'existence de l'empereur une sorte de messe permanente. Imaginez qu'il y a constamment des gens autour de lui. On les appelle les turiféraires qui sont là pour encenser l'empereur à longueur de journée. Quand je dis encenser, c'est-à-dire manier des encensoirs vraiment autour de lui. Et puis il y a aussi toujours à côté de lui le trône du Christ, un trône vacant naturellement, mais qui est le symbole à Byzance du pouvoir souverain. Donc, le premier réflexe de l'empereur en voyant les Turcs encercler la ville, c'est prier et faire prier. Seulement, il va bien falloir un moment ou un autre agir. Alors Constantin décide d'en appeler aux chrétiens d'Occident, ce qui suppose du reste de pouvoir leur faire parvenir un certain nombre de messages. Là, le chef de la flotte a une idée. Il va faire armer un petit navire vénitien à la manière turque. Il déguise tout l'équipage en marin ottoman et il ordonne au capitaine d'aller se faufiler au milieu de cette impressionnante armada ennemie. Et la ruse fonctionne. Le brigantin finit par gagner la haute mer et il met enfin le cap sur Venise. Là-bas, les messagers seront bien reçus. Le doge et le grand conseil décideront même de mettre 10 navires de guerre à la disposition des Byzantins. Reste à savoir si ces navires-là pourront arriver à temps. Revenons donc à Constantinople, où maintenant les choses ont tendance à se corser. C'est l'heure des premiers assauts. Or, ça c'est une chance pour les Byzantins, le système défensif de la ville a fait ses preuves depuis des siècles. À l'ouest, face au camp de Mehmet II, les murailles, qui sont des murailles absolument imposantes, résistent et résistent bien aux assauts des Turcs. Au sud, sur la mer de Marmara, vous avez d'autres remparts qui sont en à-pic et qui empêchent tout projet de débarquement. Le seul front qui serait un petit peu vulnérable, c'est la côte est, celle qui donne sur le port naturel de la Corne d'Or. Seulement, l'accès de ce petit bras de mer est interdit par une chaîne énorme, une chaîne en bois et en fer, une chaîne qui se trouve défendue, on s'en doute, par toute la flotte byzantine qui a été massée tout le long de la chaîne. Pour Mehmet II, cette résistance n'est pas vraiment une surprise. Le jeune sultan savait que la ville reine serait difficile à prendre, seulement il n'imaginait pas que tous ces assauts allaient comme ça se solder par des fiascos. Enfin quoi, ce sont quelques 7000 malheureux byzantins, soutenus il est vrai par une petite garnison génoise de 700 hommes à tout casser, ce sont ces gens-là qui vont tenir en échec un demi-million de combattants turcs surentraînés. Vous avouerez qu'il y a de quoi être écœuré pour le jeune sultan. Seulement, Mehmet n'a pas dit son dernier mot, car il dispose d'une arme terrifiante, la basilique, la royale. C'est une bombarde hors norme. C'est un petit peu sa grosse Bertha à lui, si vous voulez. Elle peut envoyer des charges de 1500 livres. Elle est montée sur un immense chariot qu'on appelle le château de bois. Et pour déplacer ce château de bois, qui roule bien entendu, on utilise, tenez-vous bien, 100 paires de bœufs. Et pour la faire fonctionner, il y a plus de 1000 servants. Du reste, après plusieurs jours d'activité de cette bombarde, la muraille de Constantinople commence à se fissurer et ça va bientôt obliger les défenseurs à se replier sur un deuxième rempart qui double le premier à l'intérieur. Alors, et la flotte, me direz-vous ? Bien de ce côté-là, on est un petit peu au point mort, la chaîne tient bon, elle continue de barrer l'accès à la Corne d'Or. Le sultan n'en croit pas ses yeux, alors comme ça, la voie maritime est fermée. Qu'à cela ne tienne, on passera par voie terrestre. Vous avez bien entendu, aussi fou que ça paraisse, les Turcs vont construire une glissière avec des rouleaux de bois assemblés, graissés, et sur cette glissière, ils vont hisser leur bateau à force d'hommes. Et voilà comment, sous les regards hallucinés des défenseurs de la ville, tous les bâtiments légers de la flotte turque vont traverser en plein champ le territoire qui sépare la mer de Marmara du port naturel de la Corne d'Or. C'est un défi insensé qui se trouve relevé de la sorte. Évidemment, quand les bateaux sont arrivés sur la partie élevée de la péninsule, ils se mettent à glisser tout seuls vers le bras de mer en contrebas. Alors d'abord, ils glissent doucement et puis de plus en plus vite. Et les équipages arrivent à sauter à bord. Et là, dans des cris de joie, ils se retrouvent bientôt à flot dans le port de Constantinople. Mieux que ça, ils vont même pouvoir prendre la flotte assiégée à revers. Pour les Byzantins, le moment est venu d'utiliser leur fameuse arme suprême, ce feu grégeois qui brûle même dans l'eau et dont ils conservent secrète la formule depuis le 7e siècle. Malheureusement pour eux, ils ne vont pas parvenir à embraser la flotte turque, car à chaque fois qu'une galère ennemie est atteinte par les flammes, les Turcs préfèrent la sacrifier eux-mêmes à coups de canon plutôt que de risquer une propagation des flammes. Paradoxalement, c'est sur terre que la défense par les flammes va réussir. Et notamment, le château de bois qui supporte la grosse bombarde se trouve enfin incendié. On avertit aussitôt le jeune sultan qui accourt. « Quand bien même les 15 000 prophètes me l'auraient prédit, se lamente-t-il, je n'aurais pas cru cela possible. » Le sultan est à ce point découragé qu'il se dit que l'heure est peut-être venue de négocier. Alors il propose aux Byzantins de se rendre en échange de la promesse qu'il ne leur sera fait aucun mal. Réponse de l'empereur Constantin XI, « Il n'est ni en mon pouvoir, ni en celui de personne ici, de rendre cette cité. Nous sommes tous prêts à mourir et nous quitterons la vie sans regret. » Seulement derrière ce panache, il y a une question qui taraude le malheureux empereur. Pourquoi est-ce que les secours tant attendus n'arrivent pas? Eh bien, en vérité, c'est que les 10 navires de guerre vénitiens sont pour le moment bloqués en Grèce, entre les îles de Chio et d'Eubée. Car, et ça on peut dire que c'est un véritable coup de malchance, alors que l'endroit habituellement est très venteux, eh bien cette semaine-là, on ne voit pas pointer le plus petit vent porteur. De son côté, le jeune sultan a été humilié par la fin de n'en recevoir opposé par le vieil empereur à ses propositions. Et Mehmet se dit qu'il ne va pas pouvoir repousser longtemps le moment de la vengeance. L'assaut final des Turcs est pour demain, il est là pour ce soir. Cette imminence du désastre, les Byzantins l'ont senti de leur côté. Dans la ville résignée, une longue procession se met en marche vers Sainte-Sophie. Les gens se retrouvent, ils s'embrassent dans un sanglot. Ils trouvent le courage d'entonner des chants à la louange de Dieu. C'est la tombée du jour, et là, à la lumière des torches, on converge vers l'ultime office religieux. Dans l'antique basilique commence alors une veillée de prières sans exemple dans aucun temps. La ferveur est intense. La ville entière n'est plus qu'une prière. Le soleil décline sur la capitale au bord du gouffre, le disque rouge embrase la mer de Marmara, c'est la dernière fois qu'il se couche sur Constantinople. Demain, il se lèvera sur Istanbul. C'est donc la dernière nuit de veille. Il y a un beau clair de lune sur le camp des Turcs ottomans. Debout sur ses étriers, le jeune sultan n'en finit pas de remâcher sa colère. Décidément, ces chiens de Byzantins sont trop fiers. Mehmet n'a plus le choix. Il va devoir galvaniser ses troupes en vue d'obtenir un miracle. Alors, Il réunit les chefs et il leur fait part de sa grande décision. Ils vont avoir 72 heures, sans restriction d'aucune sorte, 72 heures pour voler et pour violer. « Vous trouverez dans cette place, leur dit-il, des trésors qui vous rendront riches pour 100 ans. Vous y trouverez quantité de femmes ravissantes, de jeunes filles nubiles mais encore vierges, de beaux adolescents. Après un mois d'exaspération, vous imaginez si cette promesse fait littéralement exploser la frustration contenue de tous ces hommes. Et voilà que, dans un élan furieux, les Turcs se jettent comme un seul homme dans l'assaut de toutes les passions. En face, au rempart, on essaie de tenir bon. Plusieurs offensives sont d'abord repoussées. Seulement, on est bien obligé de constater une faiblesse du côté de la porte de Carisios. Alors pour la renforcer, on dégarnit un peu la porte du cirque et c'est comme ça, tout simplement, que se crée une faille dans le dispositif, une faiblesse dans la cuirasse, faiblesse que personne ne voit, personne, sauf les janissaires du sultan qui s'y engouffrent à 5h du matin. Or les Turcs, une fois entrés dans la ville, ont le bon réflexe. Plutôt que descendre vers le centre de la cité, ils choisissent de prendre à revers le point faible du dispositif. À la porte Carisios, c'est la surprise et la défection, défection des Génois autant que des Byzantins. Et dans les premières lueurs de l'aube, c'est le grand massacre qui commence, et les viols, et les pillages de maisons, et les profanations d'églises. À Sainte-Sophie, les prières ne sont plus qu'une longue incantation. Catholiques et orthodoxes, riches et pauvres, c'est la dernière messe, c'est la dernière communion. L'heure est venue de passer dans l'au-delà. Ces gens sont là qui attendent la mort. Ils entendent le tumulte du massacre qui se rapproche. La mort vient, elle les encercle, elle les rattrape. Ils prient toujours. Soudain, les portes de bronze sont enfoncées. Et là, c'est la curée, le sacrifice, le bain de sang. L'empereur va mourir, dit-on, le glaive à la main. Le sang coule sur le pavage admirable de Sainte-Sophie. Il inonde les rues voisines. Il rougit tout le quartier. Il entachera la ville entière. Tous les survivants seront réduits en esclavage. Et puis, une fois la cité vidée, eh bien, on y installera une population turque. Dans les mois qui suivront, la tête de l'empereur Constantin XI sera promenée par toute l'Asie, suivie du pitoyable cortège de 40 jeunes gens et 40 jeunes filles de bonne famille qu'on force à défiler enchaînés. Cette fois, le vieil empire est bien mort. Pour employer une image, je dirais que ses cendres vont contribuer à fertiliser la jeune puissance ottomane qui un jour, à son tour, reconstituera l'empire méditerranéen. Quant à l'âme de Byzance, on peut dire qu'elle s'est envolée. Elle a suivi les grands prêtres partis à temps de la cité et qui sont allés chercher refuge du côté de l'Italie. C'est là-bas que leur savoir immense, greffé littéralement sur l'Occident, fera éclore dès le printemps prochain la Renaissance.